Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Forte poussée de l'extrême droite, recul des socialistes et effondrement des libéraux en Espagne. La situation politique semble encore plus chaotique ce matin à l'issue des élections organisées hier et qui complique davantage encore la formation d'un nouveau gouvernement.
Dans votre journal également, très forte tension ce matin à Hong Kong, paralysée par les blocages.
Oui, ce alors qu'un manifestant a été blessé par balle par un policier. Nous irons également en Bolivie après la démission hier du président Evo Morales, lâché par la police et par l'armée après 3 semaines de protestations en France. Nous reviendrons sur la marche controversée contre l'islamophobie organisée hier qui aura non seulement déchiré la gauche mais aussi provoqué une levée de boucliers de la part du gouvernement et de l'extrême droite. Enfin, à l'occasion des commémorations du 11 novembre, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Jean Guinel, journaliste spécialiste des questions militaires. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alors nous irons du côté de l'Est regarder par-dessus ces murs invisibles que la chute du mur de Berlin n'a probablement pas permis de faire tomber. Nous en parlerons avec nos invités, l'historienne Sonia Combe et le journaliste Max Erwan Gastineau. Je viens de craquer mon stylo, pardon.
Merci et à tout à l'heure. Comme dans nombre d'autres pays européens, l'effondrement du bipartisme avait été accueilli en Espagne comme une preuve de pluralisme politique. Or, avec pas moins de 4 élections en 4 ans, il ressort aujourd'hui de l'expérience de la représentativité absolue qu'elle a manifestement échoué, pire encore puisqu'elle aura même provoqué la plus grande période d'instabilité politique dans le pays depuis 1978. Hier, si le Premier ministre socialiste sortant, Pedro Sánchez, a certes de nouveau remporté les élections, cette fausse vraie victoire laisse surtout entrevoir une impasse législative prolongée. Pourquoi ? D'une part parce que sa formation, qui espérait obtenir une majorité claire, ne compte plus que 120 députés contre 123 à l'issue du dernier scrutin, et d'autre part parce que dans le même temps, le parti d'extrême droite Vox a lui poursuivi son ascension fulgurante et remporté 52 sièges, devenant ainsi la 3e force politique d'un pays où depuis la fin de la dictature, l'extrême droite était encore il y a peu totalement marginale. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Barcelone. Alors celui qui, sous les cris d'encouragement de ses partisans, s'est à nouveau engagé à débloquer la situation politique et à former un gouvernement progressiste n'en a pas moins en réalité perdu son pari. Les résultats d'hier augurent a priori d'une poursuite de l'instabilité politique. Et puis l'autre leçon à retenir, Isabelle, c'est que le parti qui au fond tire le plus profit de ces élections, c'est l'extrême droite.
Bien sûr, et ce scrutin propulse Vox dans le club des partis populistes européens. Avec ses 15%, le parti de Santiago Abascal est d'ailleurs dans la moyenne. On pourrait le comparer à l'AFD en Allemagne, 12% aux dernières législatives, là aussi 3e force parlementaire. On pourrait le comparer encore au FPE en Autriche, qui se maintient à 16%, ou à la Ligue de Matteo Salvini. Pourtant, ce qui le distingue des autres, c'est d'abord sa fulgurance. Vous le disiez, Vox est né fin 2013, ses premiers députés ont été élus en avril, ils n'ont pas d'expérience, pas de bilan, mais le contexte, la question catalane a clairement servi d'accélérateur politique. Reste la question de l'absence de cordon sanitaire qui a permis à Vox de s'allier à 3 reprises déjà avec les conservateurs pour participer à la gestion d'une ville ou d'une région. Gabriel Colomé est professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone.
C'est-à-dire une chose qui ne serait pas possible en Europe parce qu'il y a une logique qui s'appelle le pacte républicain. Et ici, comme on n'a jamais subi la première ni la deuxième guerre mondiale, on a une autre perception, et en plus on a eu le franquisme. C'est-à-dire que, il n'y a pas de problème, on blanchit. Et ça, on doit dire non. Non, c'est non. Parce que tu formes part du Parlement, mais tu n'es pas un parti démocratique.
Précisons que Vox refuse le qualificatif d'extrême droite. Hier soir, Santiago Abascal a tenté d'imposer une nouvelle terminologie, l'alternative patriotique.
Merci Isabelle Labéry en direct de Barcelone. Et puis j'ajoute, on vient de l'apprendre, qu'après son effondrement législatif, le chef du parti libéral Ciudadanos a choisi de démissionner. Preuve, là encore, que les élections apparaissent aujourd'hui de plus en plus souvent comme une partie à deux manches, celle d'abord où les citoyens sont appelés aux urnes et celle ensuite où les politiques s'allient. En Autriche, les écologistes, arrivés en 4e position des dernières législatives organisées en septembre dernier, ont fait savoir qu'ils étaient prêts à entrer dans un gouvernement dirigé par l'ex-chancelier Sebastian Kurz. Si cette hypothèse se concrétisait, ce serait la première fois que les Verts seraient associés à l'exercice du pouvoir en Autriche. En revanche, et faute d'accord avec les écologistes, Sebastian Kurz Delcourt se retrouverait contraint soit de se tourner vers les sociaux-démocrates avec lesquels il entretient des relations exécrables, soit avec l'extrême droite pour reconduire donc la coalition qui s'était achevée par un scandale politique. Comme attendu en Roumanie, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle confirment l'ancrage pro-européen de l'ex-pays communiste. Selon les sondages de sortie des urnes, le président sortant libéral issu de la minorité allemande, Klaus Johannis, arrive en tête devant la chef de file de l'opposition socialiste et ancienne premier ministre dont le gouvernement avait été renversé par le Parlement le mois dernier. Le second tour se tiendra le 24 novembre prochain. Voilà plusieurs jours déjà que la polémique enfle au Royaume-Uni. Pourquoi donc le gouvernement de Boris Johnson se refuse-t-il à publier un rapport parlementaire sur les interférences russes dans la politique britannique, et ce à la veille d'une élection générale cruciale programmée pour le 12 décembre? Hier, le Sunday Times a, semble-t-il, apporté quelques éléments de réponse. Selon l'hebdomadaire, 9 personnalités russes du monde des affaires auraient récemment effectué des donations au parti Tory. Au total, les conservateurs auraient reçu plus de 3,5 millions de livres de donateurs d'origine russe depuis 2010. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un coup de feu filmé et retransmis en direct sur Facebook. Sur les images, un policier anti-émeute hongkongais tire à balles réelles sur un militant pro-démocratie, le blessant au torse. Un incident qui vient illustrer une fois de plus non seulement la dégradation de la situation dans l'ex-colonie britannique, mais aussi l'obstination aujourd'hui de l'exécutif local qui, tout en refusant de céder aux aspirations démocratiques de la population, a choisi de confier le soin de gérer cette situation littéralement explosive aux forces de police, lesquelles semblent de plus en plus aimanter la colère de la population. Alors c'est la troisième fois en réalité depuis le début de ce mouvement de contestation, entré dans son sixième mois, qu'un manifestant est ainsi blessé par un tir des forces de l'ordre. Et puis ce nouvel incident intervient par ailleurs quelques jours seulement après le décès d'un étudiant de 22 ans suite à une chute accidentelle dont les circonstances d'ailleurs demeurent encore obscures. Simon Leplâtre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Hong Kong dès ce matin, Simon. Et alors qu'un appel à la grève générale avait été lancé pour ce lundi, eh bien plusieurs quartiers ont été le théâtre d'actions de blocage en tout genre.
Oui, c'est ça. Les manifestants avaient prévu de bloquer la ville. Ce matin, ils avaient installé des barrages, entravé certaines lignes de métro, la police les pourchassant rapidement. Et puis, à 7h30, ce policier qui a tiré sur des manifestants, l'un a été touché à la jambe, l'autre s'est effondré aussitôt, touché au foie et à un rein. Et dans toute la ville, la tension est montée d'un cran. Depuis vendredi dernier déjà, et la mort d'un jeune homme blessé, donc vous le disiez, en marge d'affrontement avec la police, les appels à la vengeance se multipliaient en fin de matinée, alors qu'une dispute avait lieu entre des manifestants et un homme qui soutenait la Chine. Quelqu'un l'a aspergé d'essence et a allumé, le transformant en torche humaine. Par chance, le feu a rapidement été éteint et il s'en tire avec des brûlures au deuxième degré, mais la scène est particulièrement choquante. Les manifestants lancent de plus en plus de cocktails Molotov, tandis qu'en face, la police a changé de stratégie. Souvent dépassée en début de mouvement, les forces de l'ordre semblent avoir décidé que la meilleure défense, c'était l'attaque. La police cherche à arrêter des manifestants, mais aussi souvent à faire mal, en frappant, en tirant des balles en caoutchouc ou en lançant des gaz lacrymogènes, comme s'ils cherchaient à dissuader les gens de se joindre aux manifestants radicaux. Mais pour l'instant, c'est l'effet inverse qui se produit. Pour une bonne partie de la population, la violence de la police justifie des actions radicales. Bref, l'escalade de la violence n'en finit pas. Il faut se rappeler qu'il y a 5 mois, en juin, la police faisait usage de balles en caoutchouc pour la première fois de l'histoire de Hong Kong. Aujourd'hui, les tirs à balles réelles et les cocktails Molotov sont presque devenus normaux.
Merci Simon Leplâtre en direct de Hong Kong. Le président chinois est arrivé à Athènes pour une visite de 3 jours, visite destinée à signer des accords de coopération dans les domaines de l'éducation, de la marine marchande et de l'énergie, une illustration tout à la fois du vaste projet controversé de Pékin visant à relier grâce à ces nouvelles routes de la soie la Chine à l'Asie, l'Afrique et l'Europe, mais aussi de la détermination du gouvernement grec d'attirer de nouveaux investissements étrangers. Après 3 semaines de contestation sociale, c'est peu de dire que la Bolivie a été frappée hier par un véritable séisme politique. Après 14 années passées à la tête du petit pays andin, et alors que la crise s'était brutalement accélérée ces derniers jours, grève générale et manifestations paralysaient l'activité du pays tout entier, le président Evo Morales a finalement cédé aux appels de ceux qui réclamaient sa démission depuis sa réélection controversée le 20 octobre dernier. Plus exactement, le coup fatal aura finalement été porté par l'armée et la police qui, toutes deux, ont choisi de lui retirer leur soutien. alors même que le chef de l'État avait pourtant annoncé un peu plus tôt qu'une nouvelle élection serait organisée. C'était d'ailleurs précisément la raison pour laquelle il se dit aujourd'hui victime d'un coup d'État. Quoi qu'il en soit, et après donc la démission d'Evo Morales, la Bolivie plonge désormais dans l'incertitude la plus totale, aggravée qui plus est par une vacance du pouvoir, puisque tous les autres hauts responsables politiques qui auraient dû assurer l'intérim ont annoncé à leur tour leur démission. Enfin, au-delà, il est intéressant de noter, Nadine Epstein, les réactions à l'international suscitées par cette démission et tout particulièrement, bien sûr, celles des voisins latino-américains.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro, son homologue argentin Alberto Fernandez, le chef de l'État cubain Miguel Díaz-Canel et celui du Nicaragua Daniel Ortega se sont d'une même voix indignés de la démission d'Evo Morales. Tous ont dénoncé un coup d'État de la droite contre la démocratie en Bolivie. La Havane a exprimé, je cite, sa solidarité avec le frère président Evo Morales, protagoniste et symbole de la revendication des peuples indigènes de nos Amériques, fermez les guillemets. Caracas a appelé à la mobilisation pour exiger que soit préservée la vie des peuples indigènes boliviens victimes du racisme. Le Mexique, qui tout en parlant aussi de coup d'État, salue l'attitude responsable du dirigeant bolivien pour apaiser la situation et lui a proposé l'asile. D'ailleurs, 20 Boliviens fonctionnaires et parlementaires se sont déjà réfugiés à l'ambassade mexicaine de La Paz. Il est lamentable que l'Amérique latine ait une élite économique qui ne sait pas accepter la démocratie et l'inclusion sociale des plus pauvres, a déclaré l'ex-chef d'État brésilien Lula. Le Pérou et la Colombie, plus mesurés, ont sollicité une réunion d'urgence de l'Organisation des États américains pour rétablir le calme et garantir la démocratie bolivienne. Réaction totalement opposée de la part du président brésilien Jair Bolsonaro qui estime que ce sont les fraudes commises dans les élections d'octobre et les dénonciations de ces fraudes qui ont entraîné la démission du président bolivien.
Hasard de l'actualité ou pas, au Chili, le gouvernement a accédé hier à l'une des principales revendications qui secoue le pays depuis 3 semaines en se disant d'accord pour ouvrir la voie à une nouvelle constitution via une assemblée constituante. Parmi les modifications envisagées à la constitution héritée de la dictature Pinochet figure notamment une meilleure définition des droits de la personne et les modalités pour faire respecter ces droits. C'était il y a 15 ans, jour pour jour, le président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat mourait à Clamart, près de Paris. C'est ainsi que depuis quelques minutes à Ramallah, ville siège de l'autorité palestinienne, se déroule une cérémonie officielle autour du tombeau du Palestinien, certainement le plus connu au monde et toujours aussi populaire dans son pays. Au risque donc, Frédéric Mettezo, que cette journée ne fasse au fond qu'accentuer un peu plus encore le contraste qui existe aujourd'hui avec la situation de son successeur, Mahmoud Abbas, lequel préside l'autorité palestinienne depuis janvier 2005 et semble aujourd'hui à bout de souffle.
Mahmoud Abbas aurait dû remettre son mandat en jeu en 2009, mais il a été prolongé sans cesse après le coup d'État du Hamas à Gaza en 2007. Une Palestine divisée, aucune élection présidentielle et législative et aucune perspective d'indépendance réelle, le bilan politique de Mahmoud Abbas est très maigre. Face à lui, Benjamin Netanyahou rejette la solution à deux États, le mur israélien et les 700 000 colons émiettent la Cisjordanie. Abbas est aussi isolé à l'international, il boycotte l'administration américaine après que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et les pays arabes sunnites sont plus préoccupés par l'Iran chiite que par le sort des Palestiniens. Mahmoud Abbas a perdu le dernier bras de fer qu'il avait engagé avec Israël. Pendant 8 mois, il a refusé de percevoir les taxes douanières reversées par l'État hébreu, mais face au risque d'écroulement économique, il les encaisse de nouveau depuis le mois dernier. Abbas promet encore d'organiser des élections en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, peut-être en février 2020. Il sera candidat, ont déclaré avant-hier des responsables de son parti, le Fatah, malgré ses soucis de santé, bien connus des diplomates étrangers et qui s'en inquiètent.
En Irak, 3 manifestants ont à nouveau été tués hier par les forces de l'ordre dans le centre de Bagdad, devenu un véritable champ de bataille. Il faut dire que si la contestation lancée le 1er octobre dernier pour réclamer la chute du pouvoir, jugé corrompu et incompétent à un temps, semblait faire trembler les autorités, celles-ci ont, semble-t-il, depuis resserré les rangs. Hier, la majorité des forces politiques se sont même entendues pour en finir avec la contestation par tous les moyens. Un attentat à la bombe a fait 8 morts hier dans une zone du nord-est de la Syrie sous contrôle des forces turques et de leurs alliés locaux. Le ministère a aussitôt imputé cette attaque aux miliciens kurdes des unités de protection du peuple, les YPG, cible de l'offensive militaire qu'Ankara a lancée dans cette région le 9 octobre dernier. Et puis, parce que le retour dans leur pays des djihadistes faits prisonniers en Syrie est aujourd'hui l'une des principales craintes exprimées par les puissances occidentales après le lancement de cette offensive turque. J'ajoute qu'Ankara a justement entrepris de renvoyer ce lundi dans son pays d'origine un activiste américain du groupe État islamique. Idem pour 7 ressortissants allemands. Ce sera le 14 novembre prochain. En revanche, on ignore si de présumés djihadistes français sont concernés dans l'immédiat. Plus de 10 000 personnes ont manifesté hier contre l'islamophobie à Paris. Une marche organisée à l'appel d'une cinquantaine de personnalités et de plusieurs organisations, quelques jours seulement après l'attentat de Bayonne, mais aussi en plein débat ravivé sur le port du voile et la laïcité. Au point que cette manifestation, pourtant destinée à dénoncer les actes anti-musulmans, aura réussi tout à la fois à diviser la gauche, à provoquer une levée de bouclier du gouvernement et à susciter les critiques de l'extrême droite. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, en dépit de toutes ces polémiques, cette manifestation, ce sera globalement, Stéphane, passée dans le calme.
Oui, globalement, elle s'est déroulée dans le calme. En tête de cortège, on trouvait les initiateurs de cette marche, l'élu de Saint-Denis, Majid Messaouden, le journaliste militant à Abou Hafs ou encore l'ex-directeur du comité contre l'islamophobie en France, Marwan Mouhamad. Derrière se trouvaient les responsables politiques qui ont pris garde de ne pas montrer une trop grande proximité avec les premiers. On a pu voir pour la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Daniel Obono, mais ainsi qu'il l'avait annoncé, François Ruffin était absent. Des communistes étaient également présents, notamment l'élu de Paris Yann Brossat, mais pas le secrétaire national du parti Fabien Roussel, mal à l'aise avec le mot d'ordre contre l'islamophobie. Les écologistes n'étaient pas non plus tous là. La sénatrice de Paris Esther Benbassa a défilé, mais pas Yannick Jadot, ni le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand, confirmant les divisions à gauche. Par ailleurs, on a dénombré quelques incidents. Par exemple, une femme a exhibé ses seins dénudés avant le départ du cortège en brandissant une pancarte où il était inscrit « Le blasphème est un droit républicain », mais ce n'était pas une fémène. Les fémènes ont d'ailleurs fait savoir qu'elles n'avaient rien prévu pour cette manifestation. On a pu voir certains manifestants défiler avec une étoile jaune aux côtés de la sénatrice Esther Benbassa, qui n'y voyait pas malice, ce qui a provoqué des récriminations parfois violentes. Certains ont dénoncé un dérapage, mais c'était le fait de quelques dizaines de personnes seulement. Les organisateurs se sont aussi distingués en essayant d'échauffer les esprits, en particulier l'ex-président du CCIF, Marwan Mouhamad, qui a fait crier « Allahu Akbar » à une partie de la foule, affirmant que ce n'était pas une déclaration de guerre. Mais la plupart des manifestants n'ont pas fait preuve de telles provocations. Pour résumer, s'il y avait un certain nombre de femmes voilées dans le cortège, ce n'était pas la déferlante islamiste que dans un amalgame nous promettait l'extrême droite. A contrario, ce n'était pas non plus une grande manifestation d'unité républicaine, ainsi que l'avait souhaité et qualifié Jean-Luc Mélenchon.
Merci Stéphane Robert. La sortie du glyphosate coûtera cher et elle aura qui plus est un impact important sur le plan environnemental. Voilà peu ou prou les conclusions du rapport parlementaire qui sera présenté demain, mais dont l'agence France Presse a obtenu copie. Anne-Laure Gimet, bonjour.
Bonjour.
C'est dire si ce choix politique donc ne se fera pas sans difficulté, Anne-Laure.
Oui, cette mission d'information a fait les comptes. Sortir du glyphosate augmentera les coûts de manière significative. L'herbicide dont on parle est bon marché. Les alternatives, et notamment le désherbage mécanique, sont-elles plus gourmandes en main d'œuvre? Le rapport a évalué qu'il faudra près de 13 millions d'heures supplémentaires. Gourmandes aussi en carburant, avec une consommation multipliée par 3 ou 4. Il faut aussi investir dans de nouvelles machines, de nouveaux produits. Au total, un coût supplémentaire chiffré par les auteurs du rapport entre 50 et 150 euros l'hectare. Et puis il y a aussi, vous le disiez, un coût environnemental, puisque les techniques dont on parle émettent du CO2, 226 000 tonnes supplémentaires, selon l'Association des producteurs de céréales cités dans ce rapport. Les députés demandent aussi au gouvernement de clarifier la situation. Quels seront les secteurs qui devront se passer totalement du glyphosate au 1er janvier 2021 et quels seront ceux qui bénéficieront d'un délai supplémentaire pour une application 2 ans plus tard? Les experts de l'INRA sont appelés à éclairer les choix de l'exécutif d'ici au mois de juin 2020. Mais la mission d'information désigne déjà les activités qui lui semblent problématiques. La production de légumes en plein champ, les exploitations qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols ou encore les cultures en pente et notamment les vignes. Alors qu'Emmanuel Macron veut faire du vignoble français le premier du monde sans glyphosate.
Merci Anne-Laure Jumet. Un tremblement de terre a touché la Drôme ce matin peu avant midi. La magnitude de ce séisme est évaluée à 5,4 sur l'échelle de Richter et l'épicentre est localisé juste à côté de Montélimar. La secousse a duré une dizaine de secondes. On ne sait pas pour l'instant s'il a causé des victimes ou des dégâts. L'invité de la rédaction aujourd'hui à l'occasion des commémorations du 11 novembre, Jean Guinel, journaliste spécialiste des questions militaires. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Thomas.
Alors Emmanuel Macron doit inaugurer aujourd'hui à Paris un monument pour les 549 militaires morts pour la France en opération extérieure depuis 1963. Ces représentants de la quatrième génération du feu, ainsi qu'on la désigne dans l'armée, sont morts sur 17 théâtres d'opérations au total, au Liban, au Tchad, en Afghanistan, mais aussi en ex-Yougoslavie. Le dernier nom inscrit sur ce mur est celui du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué il y a quelques jours seulement au Mali. Pourquoi un tel monument ?
Il s'imposait, il n'existait pas. Depuis très longtemps, les familles et puis les armées voulaient qu'un lieu leur permette d'honorer la mémoire de ces hommes, surtout des hommes. Et il a fallu trouver un lieu, ça a été extrêmement compliqué. Il était prévu de le faire aux Invalides, les riverains n'ont pas souhaité, ils ont fait campagne pour que ça se fasse pas là. Et donc ce monument s'installe juste à côté d'ici, juste à côté de vos studios, dans le jardin André Citroën.
Qui est André Citroën, voilà. À Paris, effectivement, dans le 15e arrondissement. Un mot peut-être du délai, parce que ce monument était prévu, Jean Guinel, depuis 2012. Ça a été un mauvais coup porté à la mémoire de ces soldats. Il y a deux femmes, je précise, dans les 549 noms qui sont inscrits.
Moi, je vais vous dire mon sentiment. L'événement, c'est la création de ce monument, son inauguration aujourd'hui. Les polémiques, à mes yeux, sont passées. Elles étaient minables quand elles se sont produites, elles le demeurent. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que ce monument existe et que ceux qui veulent honorer ces mémoires puissent s'y rendre.
Alors, 549 noms, 17 théâtres d'opération, comme le disait à l'instant Thomas Cluzel. C'est un monument donc qui révèle une carte des guerres modernes et d'un monde finalement très agité. C'est comme ça aujourd'hui que la guerre se passe, Jean Guinel.
Oui, la France, la carte de ces opérations françaises, elle est très liée à son histoire, coloniale notamment, à sa présence dans une partie du monde très 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 bien cernée, c'est l'Afrique et c'est le Levant. Et puis vous avez un cas particulier qui est l'Afghanistan, où plus de 80 hommes sont morts. Et pour servir une cause que tout le monde pensait juste, mais qui s'avère sans grand effet, puisque l'Afghanistan va se retrouver, après le départ du dernier Américain, dans l'état où il était avant l'arrivée des Occidentaux.
Alors pour autant, est-ce que c'est un monument qui dit tout de la façon dont on mène ces guerres et dont on mène aussi la diplomatie ? Est-ce que les noms, ou en tout cas, est-ce que numériquement, on rend hommage à travers ce monument aux agents de la DGSE qui sont morts aussi en opération extérieure ? Voilà. Vous venez de publier un livre sur l'histoire secrète de la DGSE, Jean Guinel.
Alors il faut que j'aille voir le monument parce que je ne l'ai pas vu j'observe juste que le terme « opération extérieure » a une connotation juridique extrêmement précise et que les opérations conduites par la DGSE ne sont pas des opérations extérieures, ce sont des opérations secrètes qui sont conduites dans un cadre extrêmement particulier avec pour celles qui ont été très connues à cause des effets désastreux qu'elles ont eus sur les personnels, je pense à l'opération en Somalie, qui visait à soutenir un gouvernement inexistant, qui avait besoin de constituer des forces. Et puis, les derniers décès qui ont eu lieu à la DGSE, mis à part un accident à Sercotte il y a quelques semaines, sont notamment ceux de l'année 2016, que j'appelle dans le livre l'année Anus Horribilis, en Libye.
Ces opérations disent beaucoup aussi de la façon dont on fait de la diplomatie en France. En Libye, en ce moment, on a le commandement des opérations extérieures qui est engagé aux côtés de Fayez al-Sarraj. Et puis, en même temps, on a le service action de la DGSE, pour le coup, qui, lui, est engagé aux côtés du maréchal Haftar.
Oui, c'est très, très, très étonnant. Donc, il y a deux forces françaises de grande qualité avec des capacités pratiquement similaires qui sont l'une du côté du maréchal Haftar, qui est un personnage plus que controversé, et puis vous avez le commandement des opérations spéciales et la direction du renseignement militaire qui eux sont engagés auprès...
Comment vous analysez cette situation ?
Eh bien, les opérations secrètes de la France, c'est pas faite pour celles de la DGEC. En tout cas, c'est pas faite nécessairement pour soutenir la politique officielle. Ça peut être bon, sauf que là, ces politiques-là ont énormément de mal à rester secrètes. Elles se font quasiment au grand jour, et c'est une nouveauté absolument considérable puisque aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pratiquement plus rien ne peut rester secret.
Merci Jean Guinel d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Benoît Bouscarel. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué le plus souvent par la grisaille accompagnée de faibles pluies. Les quelques éclaircies localisées pour l'essentiel sur le nord-ouest du pays se feront rares quant aux températures. Elles afficheront entre 6 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.